l'éclat de sa cour, dont l'honneur lui revenait, contribuait aussi à l'éblouissement général. Ce n'était pas encore la foule ininterrompue de 20 ans plus tard, quand le château de Versailles fut achevé et que Louis XIV tint sa noblesse logée sous sa main, ne bougeant d'auprès de lui que pour faire campagne. La jeune cour ne fut jamais très nombreuse que par intermittence. On verra tout à l'heure combien elle avait été grosse en mai 1664. Le 27 du mois suivant, le duc d'Enghien écrivait de Fontainebleau. « Il n'y a presque point de femmes ici, et fort peu d'hommes, jamais la cour, n'a été aussi petite. » Le 16 août aussi, à Fontainebleau, la reine-mère donne un bal. Elle n'a que 16 danseuses et autant de danseurs. En octobre, la cour est à Paris et le roi donne une fête. « Le bal n'était point beau », écrit le grand Condé. La plupart des dames étaient encore au champ. Il ne s'en trouva dans tout Paris que 14. Dans ses premières années, la noblesse n'était pas encouragée à tout quitter pour venir vivre dans l'ombre du trône. Ceux qui avaient des charges en province obtenaient difficilement des congés. Ceux qui manquaient d'argent pour paraître avec magnificence avaient peu d'aide à attendre de la royauté. La pluie d'or ne commença que plus tard, et Louis XIV passait même pour serré, outre son humeur naturelle, disait Condé, qui n'est pas fort porté à faire de grandes dépenses. Il est retenu par M. Colbert, qu'il est encore infiniment moins, et particulièrement quand il n'est pas bien persuadé des affaires pour lesquelles il faut dépenser. Il est connu que Colbert n'aimait pas le gaspillage, mais il savait être large, même pour les dépenses de luxe. Personne n'était plus persuadé de l'utilité de la représentation pour un souverain, et il ne ménageait ni sa peine, ni les deniers de l'État pour que les grandes fêtes auxquelles son maître conviait la cour et la ville fussent sans rival en Europe. Et elle l'était surtout au début. Alors que les goûts étaient jeunes comme le reste, j'oserais dire comme les fautes, et en bénéficiaient comme elle. Ce qui s'appelle entraînement chez le très jeune homme prend le nom de vice chez l'homme mûr, et il n'y a pas à dire, l'un est beaucoup plus laid que l'autre. Louis XIV n'avait pas 23 ans, lorsqu'il s'est pris de la Vallière et les fêtes qu'il lui offrit s'en ressentirent. Ce furent d'exquises féeries, dans des décors légers de fleurs et de feuillages. La plus fameuse, à cause de la part qu'y prit Molière, est celle qu'on appela les plaisirs de l'île enchantée, et qui fut donnée à Versailles en mai 1664. Elle devait durer 3 jours. On la prolongea 6 jours de plus, malgré le grand nombre des invitations et les difficultés qui en résultaient. La cour, dit une relation, arriva le 5e de mai, que le roi traita plus de 600 personnes, jusqu'au 14e, outre une infinité de gens nécessaires à la danse et à la comédie et d'artisans de toutes sortes, venu de Paris, si bien que cela paraissait une petite armée. Il faut oublier tout ce que nous savons de Versailles pour se le représenter en 1664. Il n'y avait pas alors de ville, ni grande ni petite. Versailles était un petit village, entouré sur 3 côtés de champs ou de marécages. Le dernier côté était occupé par un château qui aurait été spacieux pour un particulier qui ne comptait pas pour une cour. À peine de dépendance. Un commencement de jardin planté par le nôtre. C'était tout. Colbert trouvait déjà Versailles trop grand, depuis que Louis XIV avait décidé d'offrir à ses hôtes autre chose que les quatre murs de leur chambre. On se souvient que Mademoiselle, lorsqu'elle venait à Saint-Germain chez la reine-mère, apportait ses meubles et amenait son cuisinier. Elle n'était même pas nourrie. C'était la règle générale. Louis XIV voulut être plus hospitalier et commença sa réforme par Versailles. « Ce qui est fort particulier en cette maison, écrivait Colbert en 1663, et que Sa Majesté a voulu que toutes les personnes auxquelles elle donne des appartements soient meublées. Elle fait donner à manger à tout le monde et fait fournir jusqu'au bois et aux bougies dans toutes les chambres, ce qui n'a jamais été pratiqué dans les maisons royales. » Colbert est évidemment de mauvaise humeur. Il n'y avait pourtant guère d'appartements à donner dans le château de Versailles. Les 600 invités s'en aperçurent de reste. Le journal d'Olivier d'Ormesson contient à la date du 13 mai les lignes que voici.
Ce même jour, Madame de Sévigné nous conta les divertissements de Versailles qui avaient duré du mercredi jusqu'au dimanche en course de bagues, ballets, comédies, feux d'artifice et autres inventions fort belles que tous les courtisans étaient enragés car le roi ne prenait soin d'aucun d'eux. Et Madame de Guise et d'Elbeuf n'avaient pas quasi un trou pour se mettre à couvert.
Notez que le duc de Guise allait avoir à se costumer avec
sa livrée.
Le thème de la fête avait été tiré du Roland furieux et agrémenté d'épisodes de circonstances par un courtisan expert à ces sortes d'ouvrages, le duc de Saint-Aignan. Pendant 3 jours et 3 nuits, une troupe de choix, s'il s'en fut, composée de Louis XIV, de Molière, des plus grands seigneurs de France et des plus jolies actrices de Paris, broda sur les imaginations de l'Arioste en présence de deux reines et d'une cour immense qui semblait, dit quelque part la Gazette, avoir
épuisé les Indes.
Pour se couvrir de pierres précieuses. Des salles de verdure, des astragales de fleurs et la voûte du ciel furent le cadre où se déployèrent les cortèges mythologiques. Les jeux de chevalerie, les ballets, les festins pour toute la petite armée et deux premières représentations de Molière dont l'une allait être l'un des événements littéraires du siècle. Le soir, on allumait des lustres accrochés parmi les feuillages et la fête continuait pendant la nuit. La musique molle et tendre de Lully planait sur cette apothéose de l'amour dont l'héroïne, et c'était un charme de plus, restait confondue dans la foule. Louise de Lavallière n'était encore ni reconnue ni duchesse. La première des 3 grandes journées de la fête fut toute pour les yeux. Le roi de France et la fleur de ses courtisans, en paladin de Charlemagne, habillés et armés à la grecque. Selon les idées du XVIIe siècle sur la couleur locale, coururent la bague devant une somptueuse assemblée qui poussait
des cris de joie et d'admiration.
À l'aspect du maître, Louis XIV recherchait ses exhibitions. Il y brillait et il leur attribuait une importance sur laquelle il s'explique à son fils dans ses mémoires. Il les croyait très efficaces pour
lier d'affection avec le souverain. Ces peuples et surtout les gens de qualité. Les peuples ont toujours aimé les spectacles. Et, pour la noblesse, plus un roi la tient de court, plus il doit lui montrer que ce n'est pas aversion, mais raison et devoir, simplement. Rien n'y sert mieux que les carousels et autres divertissements de même nature. Cette société de plaisir qui pionne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touches et les charmes, plus qu'on ne peut dire. Les tenants de la course de bagues de 1064 avaient en effet été très fiers de l'honneur qui leur était fait. Ils apparurent couverts d'or, d'argent et de pierreries, escortés de pages et de gentilshommes galamment équipés. On vit défiler après eux des chars allégoriques, des personnages de la fable et des animaux exotiques. Molière en dieu Pan, l'un de ses camarades monté sur un éléphant, un autre sur un chameau. Au souper en plein air qui termina la journée, la table royale fut servie par le corps de ballet qui vint en dansant et tourbillonnant apporter chacun son plat. Les chevaliers de la course de bagues, avec leurs casques couverts de plumes de différentes couleurs et leurs habits de la course, se tenaient debout derrière les convives. 200 masques portant des flambeaux de cire blanche éclairaient cet admirable tableau vivant, digne du grand poète, qui l'avait inspiré. Le lendemain fut employé à donner aux 600 invités une leçon de philosophie de la nature, non plus symbolique et voilée, mais claire et directe. Aussi fut-elle parfaitement comprise, les spectatrices en convinrent. La leçon était de Molière, qui avait écrit sa Princesse des Lides dans le dessein bien arrêté de célébrer et de justifier les amours du roi et de la valière. On se rappelle le récit de l'aurore qui ouvre la pièce. Dans l'âge où l'on est aimable, rien n'est si beau que d'aimer, soupirer librement. Pour un amant fidèle et braver ceux qui voudraient vous blâmer. On se rappelle aussi que les 5 actes qui suivent ne sont que le développement, plein d'insistance, de cette invitation aux femmes de la cour à ne pas mériter le nom de cruelle. Après les affaires sérieuses, on revint aux plaisirs innocents. Dont le plus applaudi fut un feu d'artifice qui embrasa le ciel, la terre et l'eau parmi un grand fracas de boîtes. Déjà, chacun songeait au départ quand Molière, le lundi 12 mai, donna les 3 premiers actes du Tartuffe. La connivence du roi paraît bien établie. Le père Rapin raconte que
la secte des dévots
s'était rendue tellement insupportable dès le temps de Mazarin par ses avis indiscrets que le roi,
pour les décrier, les fit jouer quelques années après sur le théâtre par Molière.
Les
dévots
avaient vu venir le coup et fait leur possible pour le détourner. Les annales de la Compagnie du Saint-Sacrement en font foi. Elle rapporte que l'on
parla fort
dans la séance du 17 avril
de travailler à procurer la suppression de la méchante comédie de Tartuffe. Chacun se chargea d'en parler à ses amis qui avaient quelques crédits à la cour pour prévenir sa représentation.
Ils eurent beau faire, Tartuffe fut joué. L'assistance devina sans hésitation à qui Molière en avait, et les
dévots,
oui, avec émotion, se congeaient dans les formes qui leur étaient signifiées publiquement, moins d'une semaine, après que la Princesse des Lides avait déjà donné son compte à la morale. Au point de vue de la thèse générale, les 2 pièces se faisaient suite. Elles étaient 2 chapitres du même évangile. Le roi avait tout l'air de passer à l'ennemi et de se rallier aux libertins. La cabale fit un effort désespéré et Tartuffe fut interdit. Toutefois, personne ne s'imagina que la bataille fut terminée. On entrevoit une agitation extraordinaire autour de Louis XIV dans les semaines qui suivirent les fêtes de Versailles. La cour était partie directement pour Fontainebleau. L'été s'y passa à se disputer le jeune monarque. Celui-ci était tiraillé. Il y avait en Louis XIV un révolté contre les contraintes de la religion et un catholique politique soutenant l'Église par maxime d'État, parce qu'il ne pouvait se passer d'elle pour une foule de choses. Ce sont deux façons de penser qui peuvent très bien s'arranger ensemble, et le roi était en train de s'en aviser. Encore un peu, et la conciliation des deux points de vue sera chose faite, dans son esprit. En attendant, il vivait au milieu des scènes et des larmes. Ce fut un été bien troublé. Tandis que ces événements tenaient Paris attentif, la pauvre mademoiselle, oubliée dans son château d'œufs, se rongeait si fort qu'enfin son orgueil fut vaincu.
« Sur la nouvelle de la grossesse de la reine !»
disent ses mémoires.
Je m'avisais d'écrire et je songeais. Peut-être le roi veut-il que je le prie.
Et elle s'abaissa à le prier. Elle exprimait d'abord l'espoir que l'enfant attendu serait un fils.
J'exagérais de très bonne foi l'envie que j'en avais et je témoignais la douleur où j'étais d'être si longtemps sans avoir l'honneur de le voir. Je dis tout de mon mieux pour l'obliger à me permettre de retourner.
Elle écrivit en même temps à Colbert, qui passait pour être l'homme influent du ministère. À eux, ce 23 mars 1664.
Monsieur Colbert, en envoyant témoigner au roi la joie que j'ai de la grossesse de la reine, j'ose lui demander ses bonnes grâces et la permission de les lui aller demander moi-même. J'espère que vous m'assisterez de vos bons offices pour obtenir un bien si précieux. Je le supplie, si je ne puis y parvenir, de m'accorder celle d'aller faire un tour à Paris avant mai. Et ayant 3 procès considérables pour arriver en ce temps, j'attends cette rencontre, la continuation de vos bons offices. Anne-Marie Louise d'Orléans.
Le roi mit 2 mois à répondre. À ma cousine, que c'est mademoiselle fille aînée de feu Monseigneur, le duc d'Orléans. Ma cousine, j'ai une extrême consolation de vous voir dans les sentiments que vous me témoignez par votre lettre. J'oublie de bon cœur le passé et je vous permets non seulement d'aller faire un tour à Paris, mais aussi d'y demeurer ou de choisir tel autre séjour qui vous sera plus agréable. Et même de venir ici en cas que vous le souhaitiez, m'assurant que votre conduite me donnera toujours sujet de vous chérir et de vous traiter comme une personne qui m'est proche que vous êtes. Je vous remercie de l'affection avec laquelle vous m'écrivez sur la grossesse de la reine et prie, etc. Oui.
Quelques jours plus tard, mademoiselle était en route pour Fontainebleau, bien résolue à n'y faire qu'une apparition. Elle nageait dans la joie d'avoir recouvré la liberté de ses mouvements. Mais la cour, à présent, lui faisait peur. Le terrain y était devenu trop glissant pour une personne de son humeur, aimant autant son indépendance et aussi rebelle à toute discipline.